France Inter. Le 7-9.
Léa Salamé, votre invitée ce matin, est écrivain.
Bonjour à vous, Édouard Louis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin.
Merci.
Vous avez fait, il y a 7 ans, une entrée fracassante en littérature avec En finir avec Eddie Bellegueule, où vous racontiez votre enfance dans un milieu populaire de Picardie et la violence que vous aviez subie en étant homosexuel. La première phrase du livre, il y a 7 ans, était « De mon enfance, je n'ai aucun souvenir heureux ». Et puis aujourd'hui, 7 ans après, vous revenez avec « Changer, méthode » au seuil, où vous écrivez « J'ai détesté mon enfance et pourtant mon enfance me manque. Est-ce que c'est une chose normale ?» Où vous racontez comment vous vous êtes employé méthodiquement à gommer, à renier le garçon que vous étiez pour y arriver, pour devenir ce que vous appelez un bourgeois. Vous y êtes parvenu, sauf que cela a provoqué en vous un trouble, un malaise, une honte, la culpabilité d'un transfuge de classe, c'est de cela qu'il est question dans ce texte, très fort.
Merci. La culpabilité, je sais pas si c'est le mot que j'emploierais, mais en tout cas, oui, une certaine forme de trouble. Comme vous disiez, changer méthode, c'est l'histoire d'un enfant qui va vouloir prendre une revanche contre son enfance humiliée, et cet enfant, c'était moi. Je me souviens que quand j'étais petit et que j'étais ce garçon gay, efféminé, appelé PD par les autres. Déjà à l'époque, je me disais, un jour j'irai plus loin que tous ces gens qui m'insultent, qui me traitent de PD à l'école, et je leur prouverai que je suis pas seulement cette non-chose, cette sous-chose qui me constitue au moment où je reçois l'insulte. Un jour j'irai plus loin, je me vengerai, ils me regarderont, ils diront, lui il a fait des choses qu'on n'a pas fait, on a eu tort de l'insulter. Et c'était une pensée qui vraiment m'obsédait à 7, 8 ans, comme ça, dans les couloirs de l'école. Et changer méthode commence là, et ensuite déploie toute une traversée du monde social, des milieux, des classes moyennes, de la petite ville où j'étais, puis de la bourgeoisie à Paris, puis de l'aristocratie, puis du monde de l'écriture. J'ai voulu écrire une forme de grande traversée, comme ça, c'est presque un livre d'aventure, une grande traversée, ouais, du monde social, de quelqu'un qui va chercher sans cesse à prendre sa revanche sur cette enfance-là, sur cette enfance cassée, sur cette enfance détruite. Et bien évidemment, c'est une trajectoire qui se fait pas sans difficulté et sans douleur, parce que changer, c'est toujours se heurter à des formes de résistance au changement. Si vous changez, le monde social vous dit mais qu'est-ce que tu fais, pour qui tu te prends, à quoi tu joues, qui sont en fait des manières de toujours vous remettre à votre place, à faire en sorte que le monde ne change pas trop. Et donc changer méthode est aussi l'exploration de cette violence sociale, de cette violence de reproduction sociale qui passe par des mots au quotidien.
Ce livre est donc, vous le dites, un parcours initiatique de vous globalement 14 ans à aujourd'hui, 28 ans. C'est un manuel précis, détaillé, qui raconte comment on s'arrache à sa classe de naissance. Vous dites qu'à partir de 14 ans, vous allez changer votre manière de parler, de manger, de marcher, de rire. Vous allez changer votre visage, votre corps, votre cœur, vous allez effacer ce que vous étiez, vous allez effacer ce que vous aimiez aussi, pour devenir un autre, pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui.
Oui, évidemment, mon livre, c'est aussi un appel à ça, un éloge de la transformation. Je voudrais que les gens braquent la société comme on braque une banque, que les gens volent des positions qu'on leur a volées, volent des vies qu'on leur a volées, des privilèges qu'on leur a pas donnés. La question qui se pose pour moi à travers changer méthode, c'est qu'est-ce qu'on apprend d'une trajectoire comme celle-là? Qu'est-ce qu'on apprend d'une odyssée, d'une épopée comme celle-là, de la traversée de tous ces mondes?
Et qu'est-ce qu'on apprend?
On apprend beaucoup de choses, je crois. On apprend le sens de l'injustice. Je crois que changer méthode, c'est un livre d'images d'une certaine manière. Quand vous voyez une image de mon père dans une cité HLM pourrie, qui a du mal à se loger, qui a du mal à manger, dans un appartement comme ça qui sent la friture avec le sol en plastique, et que vous voyez ensuite les images de la bourgeoisie parisienne que j'ai connue plus tard dans ma vie, qui boit du champagne, qui dépense en une soirée l'argent que mon père à l'usine ou en balayant les rues gagnait en un an de travail, de superposer ces images-là. J'ai voulu créer, oui, une forme de colère, et cette colère-là, elle peut naître parfois que quand on superpose ces images les unes à côté
et
des autres.
Et elle naît, cet apprentissage, en tout cas, il naît pas forcément, vous racontez aussi, par des rencontres majeures dans votre vie. Vous, ça aura été Elena. Elena, à l'âge de 14 ans, l'amitié très forte que vous aurez avec cette jeune fille, avec sa famille, avec son milieu, va accélérer tout, en fait, va vous faire devenir ce que vous êtes. Sans Elena, vous n'auriez pas été Édouard Louis.
Oui, je me suis pas transformé, j'ai été transformé par d'autres et je pense que presque tous les transfuges de classe pourraient dire la même chose.
Je précise juste, elle vous dit, tu sais pas manger, à un moment elle vous dit, tu sais pas manger, tu manges comme un paysan, et elle vous apprend à tenir les couverts. Un peu plus tard, une autre rencontre avec un amoureux vous dira, tes dents, il faut les changer, ça fait mec du Nord, comment l'expression, ça fait un peu Nord de la France, si tu vois ce que je veux dire, et il va vous prendre rendez-vous chez un dentiste pour vous faire changer les dents. Voilà comment ça passe, la transformation.
Oui, je raconte dans Changer Méthode comment, à un moment donné, je me suis totalement soumis à ce que la bourgeoisie attendait de moi, à ce que la bourgeoisie voulait de moi. J'ai complètement transformé mon corps, donc le livre raconte changer les dents, changer la voix, changer l'accent. Quand j'étais adolescent, je me mettais devant un miroir, je m'entraînais à rire d'une manière différente, à parler d'une manière différente. Et aujourd'hui, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que d'avoir fait ça m'a permis d'avoir un regard sur le monde social et d'essayer de le critiquer. On parlait tout à l'heure d'enseignement. Moi, ce que j'ai appris de cette trajectoire aussi, c'est à quel point la bourgeoisie et les classes dominantes sont des classes assistées. Vous voyez, on dit toujours des pauvres, c'est des assistés, il y a de l'assistanat. Mais moi, je peux vous dire qu'en ayant vécu des deux côtés du monde, je vois à quel point la bourgeoisie est assistée depuis la naissance, à tous les privilèges, à le capital scolaire,
social. Elle est aussi, Edouard Louis, si vous me permettez, très accueillante, la bourgeoisie, puisqu'elle vous a accueilli aussi. La classe dominante, elle ouvre ses portes. Il y en a plein qui vous ont aidé.
Bien sûr, il y en a qui m'ont aidé et on peut être assisté et accueillant d'ailleurs. mais c'est ça qui m'a frappé dans cette trajectoire, de me rendre compte que les éléments de langage qu'on entendait sur en fait étaient totalement faux. Et l'assistanat, il est du côté de ceux qui ont tout déjà. Et qui font que moi, par exemple, j'ai entendu le mot classe prépa 2 mois avant de passer le bac. Il y a des gens dans des milieux privilégiés qui savaient déjà ce que c'était, qui étaient déjà préparés à ça.
À l'âge de 5 ans.
Et en fait, quand on a une trajectoire de transfuge comme ça, on se rend compte que dans les classes populaires, si vous voulez passer le bac, il faut être Einstein. Et dans la grande bourgeoisie, il suffit d'être un peu limité intellectuellement pour entrer à Sciences Po ou à l'ENS. Et que ça, il y a une injustice profonde dans la manière dont toute une classe, tout un monde est porté à avoir les privilèges, et porté à avoir le capital, et porté à avoir la richesse. Et mon livre est aussi une remise en cause de ça, et une forme d'insurrection contre ça, en présentant ces mondes à travers mon odyssée, à travers ma traversée du monde social.
Oui, c'est un livre très politique. C'est un livre très politique, mais c'est aussi un livre très intime. Quand vous racontez que tous ces changements de corps, de voix, vous coupent de votre famille, j'utilisais des mots nouveaux, je ne disais plus 8 heures du soir, mais 20 heures, je ne disais plus je voulais manger, mais je voulais dîner, c'était les mots d'un autre monde, et ma mère se moquait de moi, elle disait, il parle comme un médecin. Vos parents ont souffert de votre rejet, du fait qu'au fond vous aviez honte d'eux, de ce qu'ils étaient, de leur pauvreté. Vous dites, lors d'une dispute bouleversante, moi je trouve que c'est une des plus belles scènes du livre, une dispute avec votre mère, de toute façon tu n'es pas une mère, tu ne mérites pas d'être une mère, j'aurais tellement aimé que Nadia, la mère d'Elena, soit ma mère à ta place, tellement elle est plus intelligente et tellement mieux que toi. Ce livre, c'est pour demander pardon à vos parents ?
Demander pardon, je sais pas, je trouve ça un peu...
Parce que vous excusez quand même.
Théologique, mais non, oui, je dirais que c'est une manière, en tout cas, oui, de comprendre et de comprendre la violence qu'on porte en soi aussi quand on est transfuge de classe. Moi, à un moment, quand je me transformais, j'avais honte de ma famille, j'avais honte de mon enfant, j'avais honte de la pauvreté, j'avais honte de mon milieu, j'avais honte de mon nom. Et aujourd'hui, j'ai honte de ma honte. Et cette honte de la honte, elle est ce qui permet justement de porter un regard critique sur le monde, sur la hiérarchie sociale, sur la violence sociale. Et j'essaye de m'en saisir. N'ayez pas honte, mais ayez honte de cette honte. Et à partir de cette double honte, critiquez le monde et remettez-le en cause. Il y a un petit peu ça, oui.
Mais finalement, est-ce que vous auriez pu faire autrement? C'est la question que je me pose dans le livre. Auriez-vous pu devenir Edouard Louis sans trahir?
Non, je crois pas. Et en même temps, pour tout vous dire, je crois pas beaucoup non plus justement au vocabulaire de la trahison. Moi, je crois qu'on trahit pas. Je crois qu'on a le droit d'être ce qu'on a envie d'être. Étonnamment, quand une personne de la bourgeoisie se met à rompre avec son milieu pour aller cultiver des pommes de terre à la campagne, on lui dit jamais la trahison, on parle jamais de trahison. La trahison, c'est toujours pour les pauvres qui sortent de leur milieu. Et je me demande si au fond, le vocabulaire de la trahison est pas une manière de maintenir les gens à leur place. Donc moi, je voudrais rompre aussi avec ce langage de la trahison et changer méthode, je pense. C'est aussi un livre qui essaie de déployer de nouveaux langages pour parler de ces vies-là, de ces trajectoires-là. Toute l'histoire de la littérature et l'histoire d'insultes contre les gens qui ont changé, Rastignac est presque devenu l'insulte par excellence, alors qu'en fait, si on lit un peu Balzac, on se rend compte que Rastignac, c'est le seul qui aide le pauvre père Goriot quand le père Goriot meurt et agonise, alors que tout le monde s'en fout.
Et à nous deux maintenant, dit-il en regardant Paris dans le père Goriot, ce que vous dites aussi à un moment, à nous deux Paris. Paris, vous l'avez pris en tout cas en partie. C'est une réhabilitation aussi de la figure des parvenus, ce que vous dites, des Rastignac. Édouard Louis, Changer méthode, au seuil, un texte politique donc, mais aussi fiévreux, déchirant, très fort, vraiment.
Merci
et belle journée à vous.
Merci infiniment.